Troisième partie. Le matin donc, c'est-à-dire 2 heures plus tard, car la nuit n'avait pas été longue pour les gens du bal, Thérèse attendit avec impatience de voir paraître Marcel au déjeuner. Il n'entra qu'au moment où les autres domestiques se dispersaient, car il ne se souciait pas d'étaler les marques très visibles de son aventure.
« Comme vous voilà arrangé, Marcel !» dit Thérèse avec consternation en voyant 2 grandes meurtrissures qui lui ombraient le dessous des yeux. « Je suis sûre que la tête vous fait bien mal. »«
Oh, ça commence à passer » répondit-il avec un sourire. Il se disait qu'on supporterait bien autre chose pour être plaint par mademoiselle Thérèse.
« Je vous ai fait du café très fort !» continua la jeune fille en servant Marcel. Ça débrouille l'esprit après une nuit blanche. Pendant que vous déjeunerez, je ne dirai rien, mais ensuite j'ai à vous gronder. »
Il n'y avait dans la cuisine que les 2 jeunes gens et la grande Alvine qui les regardait d'un œil curieux et bienveillant. Fière de la confiance que sa maîtresse lui témoignait en toute occasion, elle s'appliquait à la reconnaître par une discrétion d'autant plus méritoire qu'elle était moins facile à sa nature loquace. Cette louable réserve avait même tourné en manie. Si quelqu'un demandait à Alvine « Eh bien, comment se porte mademoiselle Thérèse aujourd'hui ?» elle toisait l'indiscret d'un œil soupçonneux et répondait « Comment elle se porte ? Sur ses 2 pieds, je suppose. » Elle se fut laissée hacher et moudre plutôt que de répéter un seul mot de ceux qui se disaient devant elle, écoutant tout pourtant, soupirant parfois et admirant mademoiselle Thérèse avec une naïve ferveur. En cela, elle et Marcel faisaient bien la paire. « Écoutez, » reprit la jeune fille, tout en vaquant avec activité à ses occupations de ménagère, « j'ai dit que j'allais vous gronder, mais au fond, je n'en ai guère envie. » Léon Tonin a donc trouvé quelqu'un pour lui tenir tête. Il faut que vous ayez du sang sous les ongles, Marcel, car il est plus fort que vous. Mais vous ne reculiez pas d'une semelle à ce que m'a dit mon père. Racontez-moi l'affaire tout au long, voulez-vous ?
Tout au long ne sera pas long, mademoiselle Thérèse. J'avais eu la chance de trouver le bracelet et je voulais vous le rapporter. Une idée, quoi, pour être le premier à vous voir contente. Mais lui, Léon, s'est mis juste le rebours en tête. Et comme ça, nous nous sommes battus. Je commençais à voir rouge quand le maître est arrivé. » Ici, Marcel s'arrêta, étonné d'avoir fait un si long discours.
« Ah, te voilà beau maintenant !» dit Alvine en se retournant. « Les yeux en capilotade et le nez tout bleu du côté de Bise. »«
Ça ne fait rien, » dit-il en riant. « Je n'ai jamais été bien joli garçon. »
Et tu n'es pas si mal quand tu as ta nuance naturelle. Il ne faut pas se déprécier, c'est pécher contre sa mère. Qu'en dites-vous, mademoiselle Thérèse ?
J'en dis que ce garçon doit prendre un peu de repos s'il ne veut pas être ce soir aussi engourdi que notre accordéon d'hier. Mais il ne peut pas aller dormir dans sa chambre, on se moquerait de lui. Comment allons-nous faire, Alvine ?
« Je ne suis pas du tout fatigué, » dit Marcel en se levant vivement. « Il y a encore un grand coin de champ à piocher et puis du bois à fendre dans la cour. »
Si ce garçon n'a pas attrapé le guignon par tous les bouts, » s'écria Alvine en saisissant la main du jeune homme. « Un peu manier la pioche et un peu en terrasser cette plaie, en voilà assez pour envoyer un beau gars à l'hôpital où on dit que les médecins vous charcutent pour essayer leurs outils. »
« Laisse-moi donc voir, grand impatient. Je t'y mettrai des feuilles de toutes bonnes et ce sera fermé dans 3 jours. »
Le pansement fut exécuté séance tenante.
« Maintenant, dit Thérèse, vous porterez au vieux Constant Maté ses pains de serré qu'il attend depuis 1 semaine. C'est une fameuse charge, mais vous reviendrez à vide et je vous défends d'être ici avant midi. Faites un bon somme dans la pâture. »
« Ce n'est pas de refus tout de même, » dit Marcel. « Vous êtes bien bonne d'y avoir pensé, maîtresse. »
À 20 ans, le sommeil est une douce chose. Aussi, quand en redescendant avec son canequin vide,
Marcel découvrit à côté du sentier un joli coin de mousse grillé par le soleil et moelleuse aux pieds. Il s'y étendit de tout son long, après avoir abattu son chapeau sur sa figure, et ne tarda pas à dormir profondément. Les vieilles femmes du pays prétendent que, pour se réveiller à l'heure qu'on souhaite, il faut, avant de s'endormir, frapper le pied de son lit d'un nombre de coups correspondant à cette heure-là. Sans doute pour avoir négligé cette précaution sacramentelle, qu'il eût été d'ailleurs bien embarrassé d'observer, Marcel n'ouvrit les yeux qu'au moment où le soleil, déjà bien loin de son zénith, vint le frapper obliquement sur la joue que l'aile du chapeau laissait à découvert. Le jeune homme se leva d'un bond. « Il est au moins 4 heures, » pensa-t-il avec consternation. Il repassa les courroies de la haute à ses bras et prit sa course vers les Alisiers, où il arriva tout hors d'haleine. Sans Thérèse, il eût risqué d'y être assez mal accueilli. « Où donc est ce grand rêveur ?» avait demandé le maître en s'asseyant à la table du dîner. « Je l'ai envoyé chez Constant Mathé, père, » répondit brièvement Thérèse. « À quelle heure est-il parti ?»« Sitôt après le déjeuner. » La jeune fille n'éludait jamais une question directe. En cela, elle était moins prenelle que son père ne se plaisait à le croire. Le paysan se tut. Ses sourcils s'étaient froncés, mais il ne blâmait jamais Thérèse devant les domestiques. Après le repas, il emmena dans sa chambre. « Qu'est-ce que tu manigances ? » fit-il sévèrement. « Gage que c'est toi qui as dit à Marcel de ne pas revenir trop tôt. » « Vous devinez bien, » répondit-elle sans se troubler. « Je lui ai recommandé de faire un bon somme dans la pâture. » Elle ne dit pas qu'elle ne lui avait accordé ce congé que jusqu'à midi, dédaignant de paraître se disculper aux dépens de Marcel. « Il n'est pas fort, » continua-t-elle, « et si vous ne lui laissez prendre aucun repos pendant le jour, au bout de 4 ou 5 semaines de ce régime, passant des nuits blanches et travaillant ensuite comme si de rien n'était, il tombera comme une mouche. Tout le pays criera après vous, sans compter que votre profit s'envolera. « Pour une femme, tu ne raisonnes pas mal, » dit le fermier en caressant ses favoris grisonnants. « On y réfléchira. Mais je ne veux pas que tu te lances dans la sensiblerie à propos de ce garçon. Il a 20 ans, qu'il prenne soin de lui-même. Le matin, s'il a des brouillards dans l'esprit pour avoir musiqué un peu tard, qu'il aille dormir sur le foin. On ne l'éveillera pas à coups de fourche. Je ne suis pas un croque-mitaine, moi. Mais pour Dieu, Thérèse, ne t'en mêle plus. Il faut pourtant que je m'en mêle encore. Qu'allez-vous garder pour vous des 10 francs qu'on paie à Marcel ?» Les sourcils froncés du fermier devinrent tout à fait menaçants. « Ah ça !» dit-il en se plaçant les bras croisés devant Thérèse. « Est-ce que ma propre fille va me faire la loi maintenant ?» « Retourne à ta cuisine et quand tu iras à confesse, dis à monsieur le curé que tu as été insolente envers ton père. » Elle allait sortir la tête haute. Mais au moment de franchir le seuil, les larmes lui vinrent aux yeux. « Vous ne m'avez jamais parlé ainsi, » dit-elle en se tournant vers son père. « C'est que tu m'échauffes avec tes questions. Là, sois bonne fille et ne me rebats plus les oreilles de ton « je veux savoir, je veux savoir ». Quel besoin as-tu de savoir? Maintenant, embrasse-moi et va-t'en. Je t'achèterai un joli ruban demain à Morteau. » Ainsi, quand Marcel reparut, très fâché d'avoir oublié sa consigne, il fut accueilli par une ou deux remarques ironiques au lieu de la verte semonce à laquelle il se préparait. Sans se donner le temps de dîner, il prit sa hache et monta dans le bois où il s'occupa jusqu'au soir à ébrancher les troncs abattus. À 7 heures, comme il revenait à la ferme, il rencontra Félix Prenel dans le sentier. « Qu'attends-tu pour te préparer ? » lui cria celui-ci. « Tu as tout juste le temps de passer ton habit et de te mettre en route pour le creux des Raves. Il est vrai que tu n'es guère présentable avec tes poches l'œil. S'ils te trouvent trop endommagé, ils savent ton adresse et ils n'auront qu'à te renvoyer comme échantillon sans valeur. » Marcel ne s'amusa pas à chercher le sens de ce discours. Il traversa le pont de Grange en courant, monta dans sa petite chambre, y prit sa flûte et se dirigea ensuite vers la haie des noisetiers. Il n'oubliait pas que Thérèse lui avait dit « Vous jouerez pour moi chaque soir, n'est-ce pas ?
Dans sa mémoire, les moindres paroles de la jeune fille étaient précieusement conservées, ainsi que des graines d'or dont on ferait une chaîne, et il les repassait mentalement comme un saint chapelet. C'était donc pour elle qu'il allait jouer maintenant.
« Tiens, Marcel fait répétition !» se dit le fermier en entendant une claire mélodie monter dans le silence du soir. « Ce n'est pas une mauvaise idée. Il doit avoir les doigts un peu raides après avoir manié la hache tout l'après-midi. » Mais Thérèse, accoudée à sa fenêtre, savait bien que Marcel ne faisait pas répétition. La mélopée tranquille et berçante que sa flûte chantait doucement ne serait pas entendue dans une bruyante salle de bal. Elle remercia le jeune musicien d'un signe de tête quand il rentra.
« Partez vite maintenant, lui dit-elle, et ne revenez pas trop tard si vous pouvez. »«
Sais-tu, Alvine, reprit-elle au bout de quelques minutes en se penchant vers la grande servante qui cueillait du persil, agenouillée juste au-dessous de la fenêtre, « j'ai toujours désiré avoir un frère, je te l'ai dit souvent. Eh bien, il me semble à présent que j'en ai un. »
« Voilà, dit Alvine après un instant de réflexion. Je ne voudrais pas médire des frères. J'en ai un moi-même et je l'aime bien, surtout depuis qu'il est en Amérique. Mais, vous savez, ils sont fameux pour vous emprunter votre argent et ne jamais vous le rendre. Si c'est à Marcel que vous pensez quand vous dites ça, vous ne mettez pas le doigt dessus sans votre respect. Un frère ne vous regarderait pas avec ces yeux-là et il ne ferait pas ce que j'ai vu faire à ce garçon pas plus tard qu'hier. »
« Quoi donc, Alvine ? Vous aviez laissé tomber une épingle sans vous en apercevoir. Il l'a ramassée et cotée à sa blouse comme si c'eût été une relique contre les sorts. Elle y était encore ce matin. Mais il a tort, il a bien tort, continua-t-elle en hochant la tête d'un air pensif. Les épingles, ça pique l'amitié. » Elle poussa un soupir, puis elle reprit.
« Vous devriez bien me dire comment vous faites, mademoiselle Thérèse. »«
Comment je fais ?»«
Pour les rendre tous amoureux de vous. »
La jeune fille releva la tête d'un mouvement hautain.
« Je te prie de croire que je ne fais rien, » dit-elle sévèrement.
« Au contraire, » ajouta-t-elle avec un dédaigneux sourire. « D'ailleurs, ils ne sont pas amoureux de moi, c'est à l'argent de mon père qu'ils font les yeux doux. » « Pour ce qui est de Marcel, tu rêves, Alvine. C'est un grand enfant et il ne pense pas plus à moi que l'homme de la lune. »«
L'homme de la lune ne ramasse pas vos épingles, toujours, » riposta cette fille obstinée.
Cependant, Marcel se dirigeait d'un pas allègre vers le creux des Raves où devait avoir lieu non pas un bal, mais simplement une veillée. Le fermier de ce domaine était l'heureux père de 5 jolies filles dont aucune ne manquait d'adorateurs. Elles avaient aussi beaucoup de bonnes amies qui, par un hasard extraordinaire, se rencontraient au moins une fois par semaine, au grand complet, tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre. Par une coïncidence non moins frappante, les garçons se dirigeaient infailliblement de ce côté-là pour leur promenade du soir et, en passant, ils frappaient un petit coup au volet du rez-de-chaussée pour demander à être admis seulement une minute, histoire d'entrer et de sortir. Naturellement, les jeunes demoiselles avaient le cœur trop bien placé pour repousser une aussi modeste requête et l'hospitalité était accordée aux pauvres voyageurs. Toujours par l'effet de ce même hasard complaisant qu'on nomme hasard de la Brévine, au coup de 8 heures, un violoneux ou une clarinette se présentait et l'on était d'accord pour déclarer qu'il fallait profiter de l'occasion et en tourner une. Ne se trouvait-il pas que toutes ces demoiselles avaient mis des jupons blancs? Quelle chance! Voilà comment il se faisait que, tantôt ici, tantôt là, les musiciens étaient souvent mis en réquisition dans ce petit coin de pays. « Dansons avant que le show vienne !» disaient les jeunes gens. « D'ailleurs, on a besoin de se redresser un peu quand on a tenu la pioche ou les cornes de la charrue tout le jour. Au mois de juillet, on se rangera. » « Allons donc, a-t-on jamais terminé les fenaisons sans un grand bal des foins ? Et les moissons ? Ce serait bien honnête de tourner le dos aux moissonneuses sans quelques pas de valse pour finir en bons amis. Après ça, eh bien, c'est la saison morte, le meilleur temps de l'année pour la danse. Et puis, au bout de l'an, on recommence, jusqu'à ce que jeunesse se passe et qu'il en vienne d'autres pour former la ronde. La danse est presque toujours une passion chez les montagnards qui ont l'esprit gai, le corps souple, le pied ferme et qui se meuvent dans un air léger. La petite mais bruyante société réunie dans la chambre commune, au creux des raves, était d'un genre un peu mêlé. Les cinq jolies sœurs n'étaient pas exclusives, elles prenaient et gardaient dans leur filet le menu fretin, aussi bien que les grosses pièces. Être bon danseur était le sésame indispensable pour obtenir admission. Avec ça, une blouse propre et quelques sous, de quoi payer la musique. Quant au rafraîchissement, il y avait des gaufres et du sirop d'orgeat pour les demoiselles, de l'eau de cannelle très abondamment coupée d'eau, baptisée comme on disait, parfois de la petite bière pour les garçons. Les frais d'une soirée de ce genre n'étaient pas considérables, on le voit. Les invités s'y amusaient royalement, malgré tout, et on y bâclait des mariages. J'ai toujours cru, pour ma part, que c'était là le but réel des bals et leur raison d'être dans la société civilisée. Les cinq brunettes, comme on les appelait, étaient donc assises en guirlande, avec leurs amis, tout autour de la grande pièce dont on avait enlevé les meubles encombrants. Les garçons, debout près du poêle, échangeaient des plaisanteries et regardaient souvent l'horloge. Quelques minutes avant 8 heures, la porte s'ouvrit et Marcel parut. Il y eut de grands rires à son entrée. « Comme tu arrives à propos, qui t'envoie ? » lui cria-t-on. « Mon maître. »« Est-il gentil, ton maître ? Tu lui diras que nous le remercions bien. » »« Et que toutes ces demoiselles l'embrassent. » « Fille, fille, il a des propos de caserne, ce garçon-là !» Après s'être suffisamment extasié sur l'obligeance du hasard qui envoyait ainsi un musicien à point nommé, plaisanterie qu'on répétait chaque semaine avec le même succès, on songea aux affaires sérieuses. « César, dit Brunette 1, emmenez Marcel à la cuisine et donnez-lui un bon verre de bière, ça le mettra en train. » Pour une fille pratique, c'en est une, celle-là, remarqua César en allant accomplir son honorable mission. Puis il se versa à lui-même une pleine chope du breuvage mousseux et l'avala d'un trait afin d'encourager Marcel. Tous deux rentrèrent au bout de quelques minutes. La guirlande s'était rompue. Pour ne pas perdre de temps, les cavaliers avaient déjà invité leurs dames et les couples s'étaient formés en colonne. Mais les dames étaient en minorité, paraît-il, car 4 garçons restaient désassortis et se tenaient là, d'un air assez gauche et déconfit. « Jouez aux 4 coins !» dit une fille malicieuse. « Danse avec une chaise, Alphonse !» cria l'heureux cavalier de Brunette 2. Cet Alphonse était le premier valet des Alisiers, un garçon qui tranchait du fendant et se croyait plus grand conquérant qu'Alexandre. Vous voudrez bien vous rappeler, peut-être, que nous avons eu précédemment l'avantage de faire sa connaissance alors qu'il venait de recevoir une bonne douche. Il entendait mal la plaisanterie, sans doute, car il eut un peu gracieux sourire en entendant qu'on lui conseillait de danser avec une chaise. « Reste à savoir si tu danseras du tout, toi, mon cher !» murmura-t-il entre ses dents. Puis il quitta le coin sombre où il s'était tenu jusqu'alors et s'assit à l'autre bout de la chambre. « Arrives-tu, Lambin ? » s'écria-t-on en voyant rentrer Marcel. « Nous sommes tout prêts. Joue-nous-en une bonne. Tu y as le coup, ce qui est de ça. » « Pour jouer, il faudrait une flûte d'abord, » dit Marcel qui s'était approché de la table sur laquelle il croyait avoir posé son instrument. « Je l'avais laissé là. Où l'avez-vous mise ?» « Que celui qui l'a touché s'accuse, » dit solennellement le premier de la colonne. « Allons, garçon, pas de bêtises, ce n'est pas une bringue à nous monter, celle-là. Les demoiselles attendent. »« Parole d'honneur, » s'écria toute la bande, « nous avons aussi bonne envie de danser que toi. L'orchestre, c'est sacré. Personne n'y voudrait seulement toucher du bout du doigt. Cherchons. » On chercha, mais on ne trouva pas. On regarda dans tous les coins, sous les meubles, sur le poêle, jusque dans les tiroirs de la commode, pensant que Marcel aurait eu peut-être une distraction. Pas plus de flûte que sur la main. « Vous êtes bon de vous mettre en quatre, » dit Alphonse d'un air dédaigneux. « Ne voyez-vous pas que votre musicien vous fait aller ? Il est plus malin qu'il ne paraît et mauvais comme un singe. J'ai déjà pu m'en apercevoir. Il a laissé sa flûte à la maison, voilà tout. » « Non, dit Marcel, elle était dans l'étui, démontée. Je l'ai eue dans ma poche tout le long de la route, mais je la tenais à la main quand je suis entrée et je l'ai posée sur cette table à côté de mon chapeau. Vous devez l'avoir vue. »« Elle ne s'est pas envolée tout de même, dit César Pointel. C'est une drôle d'histoire. Voyons, Marcel, réfléchis un peu. » »« Et retrouve ton instrument au plus vite, » dirent les danseurs impatientés. « Retrouvez-le vous-même, » répondit-il. « Je suis sûr que vous savez mieux que moi où il est. »« Ne te gêne pas, » s'écria-t-on. « Comme ça, nous sommes des voleurs, hein ?»« Pas tous, mais il y en a un, » répliqua-t-il tranquillement. Cette audace les stupéfia pour une minute. Puis des exclamations irritées s'élevèrent de toutes parts. « Répète voir ça, petit drôle, polisson, bout de rien du tout, et d'autres moins parlementaires. » « Donnez-lui son compte, une bonne fustigée, et qu'on le flanque à la porte !» s'écria Alphonse. « Il nous a floués. Moi, je m'en vais. Sans musique, il n'y a pas mèche d'avoir un bal. » « Rien que ça !» dit César Pointel d'un ton résolu, en se campant devant la porte. « Je suis de l'avis de Marcel, moi. Il y a un voleur ici, et personne ne sortira avant que l'affaire ait été mise au clair. J'ai mes petits soupçons, je ne dis rien. » « Ne grognez pas là-bas, garçon, l'honneur exige qu'on sache à quoi s'en tenir, et soyez sage à cause des demoiselles. » Ce discours raisonnable rencontra de l'approbation. « C'est vrai, après tout, murmura-t-on, pourquoi Marcel nous aurait-il floués ?»« En ligne, mes gars, » commanda César Pointel, qui avait décidément pris la haute main dans l'affaire. « Je vais fouiller vos poches et vos gilets, sauf le respect de ces dames. » « Si ça ne vous est pas bien agréable, imaginez qu'il est question de contrebande et que je suis les gabelous. Nous connaissons tout ça. »« Nous fouiller ? Ah bien, non !» s'écria Alphonse. « Est-ce que vous allez vous laisser faire, tas de cornichons que vous êtes ?» Et il marcha vers la porte d'un pas précipité que César remarqua fort bien. Le prévenant par un mouvement très brusque, il le saisit d'une main et, prompt comme l'éclair, fit glisser l'autre sur le large buste de son prisonnier. « Je le savais !» s'écria-t-il d'un ton de triomphe. Ses doigts venaient de sentir sous le gilet un objet mince et dur, mais Alphonse se débattait comme un furieux. « À moi, les amis !» appela César. « Tenez-le, c'est lui qui a fait le coup !»« Lâche, 10 contre 1, c'est du propre !» rugit Alphonse en jouant des pieds et des poings. « Tiens-toi tranquille alors, si tu ne veux pas qu'on te touche !» s'écrièrent les autres. Mais il s'en gardait bien et tâchait toujours de gagner la porte. Il y eut un moment de bagarre. César le tenait au collet, d'autres essayaient de l'acculer dans un coin, ceux qui ne parvenaient pas au premier rang poussaient derrière et juraient tant qu'ils pouvaient pour montrer leur bonne volonté. À l'autre bout de la chambre, les jeunes filles se pressaient les unes contre les autres comme un troupeau effarouché. Quelques-unes poussaient de petits cris et se cachaient la figure dans leurs mains, en ayant soin d'écarter assez les doigts pour ne rien perdre de ce qui se passait. Alphonse, acculé au mur, ne voyait plus d'issue. Tout à coup, on entendit quelque chose rouler sur le plancher. « Attention !» s'écria César Pointel en se baissant vivement. « Eh bien, mes amis, qu'est-ce que je vous disais ?» Et il élevait à bras tendus un écu de maroquin brun que Marcel ouvrit aussitôt afin de voir si son instrument n'avait pas souffert pendant ses péripéties. « À présent, tu ne n'iras plus, coquin » s'écria-t-on de toutes parts. « Comment ça ? » répliqua-t-il hardiment. « Vous êtes tous ici en peloton aussi bien que moi, j'imagine. Qui est-ce qui avait empoché la flûte et l'a lâchée au bon moment ?» « Rien ne prouve que ce ne soit pas toi, César Pointel, qui fais tant le gendarme. Débrouillez ça entre vous !» Et, profitant de l'occasion, il se précipita, bouscula 2 ou 3 hommes, prit la porte et disparut. Il y eut un moment de stupéfaction générale. « Le gueux me le paiera !» fit César Pointel en serrant les poings. Il allait se mettre à la poursuite de son prisonnier quand l'aînée des cinq jolies sœurs s'élança pour le retenir. « Laissez-le courir, dit-elle. Assez de batailles comme ça. La flûte est retrouvée, c'est l'essentiel. Dansons. »
« J'espère que pas un de vous, garçon, ne me soupçonne, » dit César, qui était décidément un peu solennel de nature.
« Mais non, » s'écrièrent-ils en chœur, « quand on retiendra Stalfonce, on en fera un pot de marmelade. » Et sur cette déclaration féroce, la colonne se reforma. Pour avoir commencé d'une façon tragique, la sauterie n'en fut pas moins joyeuse. Marcel joua bien, son rôle ne lui déplaisait pas. Tout le monde lui parlait amicalement, sans doute pour lui faire oublier qu'il avait été sur le point de le malmener au début. Il aimait à voir autour de lui toutes ces gaies figures et à se dire qu'il était pour quelque chose dans leur plaisir.
« J'ai une idée !» s'écria quelqu'un.
Chacun se mit à rire.
« Garde-la pour toi si tu n'en as qu'une. On ne voudrait pas t'en priver, » lui répondait-on.
« Tas de moqueurs !» « Mais non, là, plaisanterie dans le coin, si nous laissions Marcel valser la prochaine pour lui marquer notre contentement. Je jouerai à sa place, quoique je ne sois pas de première force. »«
Elle n'est pas mauvaise, ton idée. Qu'en dis-tu, Marcel ?»«
Je ne sais pas danser. »«
Tu apprendras, parbleu. Est-ce qu'on peut nager sans se mettre à l'eau ? Du reste, comme tu as déjà le cou dans les doigts, tu l'auras bientôt dans les jambes. » « Passe ta flûte à François et viens inviter ta dame. »
L'intention était certainement cordiale, Marcel le sentit et sa sauvagerie se dissipa pour un instant. Il descendit de son estrade sans gaucherie, s'arrêta et promena ses yeux autour de lui. Comme il se tenait là, grand, droit et mince, ses cheveux bruns rejetés en arrière, le front découvert et le regard brillant, il ressemblait si peu au Marcel qu'on avait toujours connu que chacun, et surtout chacune, en fut frappé.
« Dis donc, il a l'air distingué !» chuchota une fillette à sa voisine.
« C'est son habit noir !» répondit celle-ci.
Et elle pensait, « Si seulement il m'invitait, j'en vaux bien une autre !» Mais quand on le vit se diriger sans hésitation vers la plus jolie des cinq brunettes et lui offrir son bras, il y eut un applaudissement général.
« Il n'est pas dégoûté, l'enfant » s'écria-t-on. « À vos rangs maintenant. Une, deux, trois. Tinira là, la la !»
Et chacun entonna l'air de valse pour seconder le flûtiste, qui n'était pas en effet de première force. Bien loin de se sentir gêné par l'honneur qu'on lui accordait, Marcel en fut au contraire comme grisé. Entourant de son bras la taille souple de sa danseuse, il s'avança la tête haute, chercha le rythme pendant quelques instants, s'y mit sans effort et s'y tint. Un professeur de chorégraphie y eut sans doute trouvé à redire. Les pas étaient inégaux, le tournoiement trop impétueux. Mais le sentiment de la mesure et la facilité des mouvements y étaient. Il ne fallait plus qu'un peu de pratique. Comme il remerciait sa danseuse en la reconduisant à sa place,
« Je vous donnerai une autre leçon quand vous voudrez. C'est tout plaisir que de danser avec vous, » répondit-elle avec un sourire des plus encourageants.
Il est peut-être parmi ceux qui me lisent des gens timides, gauches ou qui se croient tels. Ceux-là savent combien un éloge, même prononcé par une bouche indifférente, leur a affermi le cœur et relevé la tête au moment où ils doutaient le plus d'eux-mêmes. Une louange, je ne dis pas une flatterie, est parfois le plus grand bien que nous puissions faire à notre prochain. Marcel revint à sa place, plein d'une virile fierté qui lui montait à la tête pour la première fois. Il était maintenant un homme comme les autres. Une jeune fille s'était appuyée sur son bras et lui avait souri. Si Thérèse eût été présente, serait-ce vers elle qu'il se fût avancé ? Je ne le crois pas. Il se remit à jouer. Ce n'était plus seulement une vive mélodie, mais un cri de joie qui allait jusqu'au triomphe, un chant d'affranchissement vibrant comme celui de l'alouette quand elle s'élance au-dessus des brouillards et qu'elle aperçoit le soleil.
« Ce Marcel vous électrise !» disaient les danseurs.
Lui se sentait pour eux une reconnaissance infinie. La barrière derrière laquelle il avait été comme parqué si longtemps venait de tomber. Cette première valse devait faire date dans sa vie. Au coup de minuit, on se sépara. « Dites donc, garçon, s'écria César Pointel qui pensait à tout, si on faisait un bout de reconduite aux musiciens. Cette canaille d'Alphonse est capable de rôder dans le voisinage et de faire un mauvais parti à Marcel qui a déjà bien assez de bleu pour sa consommation de la semaine. » On avait beaucoup raillé le jeune homme sur ses poches-l'œil dans le courant de la soirée. « Ça y est, répondit-on, ceux qui n'ont pas de dame à reconduire iront jusqu'aux Alisiers. » Mais Marcel s'en défendit avec une chaleur qui ressemblait à de l'indignation. « Est-ce que vous croyez que j'ai peur ? » s'écria-t-il. « Je sais me défendre tout seul. Laissez-moi faire. » Il brusqua les dernières cérémonies et partit en toute hâte, craignant presque que sa garde d'honneur trop zélée ne courût après lui. Du reste, cette précaution bienveillante eût été superflue, car Marcel rentra aux Alisiers sans mésaventure. Il était 1 heure du matin. Alphonse était rentré aussi, et dans la petite chambre dont il jouissait seul en sa qualité de premier domestique, il ruminait des projets de vengeance contre Marcel, de vengeance à deux, car il avait un associé. Au moment où il quittait le creux des Raves, précipitamment et sans emporter les honneurs de la guerre, un homme s'était approché de lui dans l'obscurité. « Eh bien, lui avait-il demandé à voix basse. « Eh bien, ça a raté, parbleu. Est-ce que je serais ici sans cela ? Raconte-moi l'affaire. » Tout marchait comme sur des roulettes. J'avais soufflé l'étui délicatement, personne n'y avait rien vu. Sur un ou deux mots que j'ai lancés, comme nous en étions convenus, ça commençait à chauffer. Le musicien allait avoir sa sauce, le plaisir m'en chatouillait déjà les côtes, quand ce grand animal de César Pointel s'est douté de quelque chose, paraît-il. Il m'a empoigné, les autres se sont mis après moi. J'ai eu tout juste le temps de flanquer cette damnée flûte par terre et de filer comme j'ai pu. Voilà, une autre fois, Léon, tu feras tes affaires toi-même. Bah, dit Léon Tonin, tu travaillais bien aussi pour ta paroisse. Est-ce que tu chéris Marcel à présent? Nous combinerons autre chose, c'est tout. Allons prendre un verre. J'en suis, dit Alphonse. Et il se consola de son échec en buvant comme un Polonais jusqu'à la cloche du couvre-feu. Le lendemain était un samedi, jour de presse en toute saison, mais plus particulièrement affairé cette fois-ci. Il fallait finir la lessive, plier le linge et curer tout ce qui était susceptible de l'être, mettre la maison en bon ordre pour le dimanche, repasser des cols et des manchettes et une belle chemise pour papa Prenel, puis faire le beurre et aller au marché dans l'après-midi si l'on pouvait. En pareille occasion, Alvine se montrait à la hauteur des circonstances. Elle se multipliait et méritait alors le surnom que l'admiration un peu moqueuse des lavandières lui avait décerné. Alvine aux quatre bras. « Je me charge de faire trotter nos femmes, » dit-elle à Thérèse en combinant avec elle le plan des opérations du jour. Quand elles finissent une lessive, elles ne manquent jamais de dire, quasi en pleurnichant, qu'elles sont moulues, qu'elles n'ont jamais tant rigué. Pour une fois, ce ne sera pas un mensonge. « Oh !» dit Thérèse, « je ne veux pas qu'elles travaillent plus que de juste. » « Il n'y a pas de danger, vous leur donnerez à chacune 10 sous d'extra en les payant ce soir et elles seront toutes contentes. Comme ça, vous vous chargez du dîner, de la relaver et de tout ce qui s'ensuit. » « C'est bien clair, je ne vais pas me croiser les bras. »« Ne prenez pas trop d'eau bouillante pour la vaisselle, » dit Alvine au moment de sortir. « Ça gâterait vos jolies mains. » La jeune fille sourit et se mit à sa besogne sans perdre de temps. De toute la matinée, elle ne s'assit pas une minute, courant d'une chambre à l'autre pour faire les lits, puis revenant à la cuisine, laver les tasses du déjeuner et surveiller ses marmites. On apportait du pré de grandes corbeillées de draps et de nappes qui exhalaient cette bonne odeur de la toile de ménage séchée au soleil. Aidée par l'une des jeunes servantes, Thérèse pliait le linge et l'empilait dans les armoires afin de débarrasser les corbeilles qu'on emportait aussitôt. Puis il fallut préparer les 10 heures pour les ouvriers des champs, mettre dans un panier garni d'une serviette bien blanche le vin, le fromage maigre et le pain bis. « Je n'aurai jamais le temps de faire mon beurre, » pensa Thérèse en voyant l'aiguille de l'horloge s'approcher rapidement de 11 heures. Il va falloir mettre le couvert du dîner. Tous les repas se touchent aujourd'hui. Midi sonna avant qu'elle eût fini de rincer les verres qu'on avait rapportés des champs. « Eh bien, est-ce que la besogne avance, fillette ?» demanda son père en lui pinçant la joue. « Le régiment fait-il bien son devoir ?»«
Pour ce qui est de boire et de manger, certainement, » répondit-elle en se laissant tomber sur une chaise. « Tenez, les voilà qui arrivent comme des affamés. Le 12e coup n'a pas frappé seulement. Oh, que j'ai chaud !»
« Repose-toi un peu après le dîner, » lui dit son père, tandis que les domestiques, les ouvriers et les journalières entraient à la file comme un cortège de canards. « Après le dîner, » dit-elle, « j'ai à laver la vaisselle, puis à faire le beurre si c'est possible, avant de descendre au marché. Il me faudra le char et le cheval, vers 3 heures, je pense. »«
Tu entends ça, Alphonse ?» dit le maître. Et la conversation en resta là. Ayant fini leur repas, les domestiques se levèrent pour profiter de la sieste qu'on leur accordait généralement et qu'ils avaient bien gagnée. À l'ombre fraîche du pont de grange, ils se mirent à fumer, tout en devisant par phrases courtes et brèves, comme les bouffées de fumée qu'ils lançaient en l'air. Quant aux lessiveuses, Alvine les emmena immédiatement, marchant devant elles, d'un pas martial, jusqu'à la remise.
« Il n'y a pas de temps pour bagnauder aujourd'hui. Toute la boisellerie est encore à faire et on n'a pas écuré une seule chambre. »«
Je vous enverrai du café noir et une goutte d'eau de cerise, » dit Thérèse en voyant les longues mines de toute la bande. « Vous avez bien travaillé ce matin. » Cette promesse ne manqua pas son effet.
« Mademoiselle Thérèse a bon cœur pour le pauvre monde, » remarqua l'une des femmes en sortant.
« Et elle ne met point de chicorée dans le café, » ajouta une autre.
Au bout d'une heure, la jeune fille ayant mis en ordre sa cuisine, ouvrit la porte qui conduisait à sa petite laiterie. C'était une pièce claire, mais fraîche pourtant, voûtée et tournée vers le nord. Sur de longues tables de sapin très blanches étaient placés les rondelets évasés et peu profonds où on laissait reposer le lait pour faire monter la crème. Le plancher était couvert d'un sable fin et grisâtre qui retenait la poussière. Partout régnait une exquise et appétissante propreté. Les larges pelles à écrémer, les seaux à traire, la planche sur laquelle on pétrissait le beurre, les moules et la marque en bois gravé, tout cela sentait frais et bon, sans compter un grand tas de branches de sapin qui servaient à filtrer le lait à portée de l'étable et qui répandaient dans toute la pièce une saine odeur de résine. Thérèse était fière de sa laiterie, unique en son espèce et renommée dans tout le district, car la plupart de nos paysans tiennent le lait dans des caves fraîches à la vérité, mais humides et obscures, où la propreté désirable est difficile à maintenir. Au milieu de la pièce se trouvait la baratte, une grande machine en forme de moule creuse, virant sur un axe et pourvue d'une manivelle que Marcel tournait de grand courage.
« Que faites-vous ici ?» s'écria Thérèse en s'arrêtant sur le seuil.
« Mon ouvrage à ce que je vois. »«
Le beurre sera pris dans un instant, » dit-il en s'arrêtant pour essuyer la sueur qui perlait sur son front. « Il fait chaud pour la crème aujourd'hui. Sans cela, ce serait fini depuis longtemps. »«
Il fait chaud pour vous aussi. Pourquoi ne pas vous reposer après le dîner comme les autres ?»«
Vous étiez fatigué, vous, » dit-il. Elle venait d'enlever le couvercle de la baratte et se trouvait tout près du jeune homme. Elle leva la tête pour le regarder, car il était plus grand qu'elle.
« Comme il change tous les jours !» fut la pensée de Thérèse. Une tendresse respectueuse mais virile brillait dans les yeux bruns de Marcel. Il s'était redressé, son bras semblait plus fort. Toute jeune fille, en le voyant, l'eût accepté pour protecteur.
« Merci, » dit Thérèse. « Allez maintenant, je finirai seule. Mais vous me gâtez, Marcel, ce n'est pas bon pour moi. »
Il sourit et sortit sans répondre. Thérèse se trompait, il lui était bon de se sentir gâtée ou tout au moins enveloppée et protégée par cette tendresse attentive dont elle ne soupçonnait pas la profondeur. Thérèse avait peu d'abandon, elle vivait sur la défensive. mais, en présence de Marcel, elle laissait glisser avec délice ce froid manteau de contrainte qui la glaçait à l'ordinaire. Elle savait bien que lui ne s'en prévaudrait jamais pour devenir plus hardi et qu'elle serait toujours à ses yeux Mademoiselle Thérèse. Elle se sentait si gaie, si légère, qu'elle se mit à chanter, tandis qu'elle retirait de la baratte une masse de beurre doré et qu'elle le pétrissait d'une main adroite dans l'eau claire pour lui donner de la consistance et de la fraîcheur. Elle prit ensuite la balance, pesa soigneusement autant de morceaux d'une demi-livre que la grosse motte voulut en donner, puis, à l'aide des moules et de la planche gravée, elle en fit de jolies plaques ovales à l'effigie d'une tulipe, marque de fabrique traditionnelle et bien connue au marché. « Il me tarde que les gentianes soient assez grandes », pensait Thérèse en alignant soigneusement au fond d'un panier, sur un linge blanc, son appétissante marchandise. « Le beurre a bien meilleure façon dans de jolies feuilles vertes. Maintenant, me voilà prête à partir. Grâce à Marcel, je serai au marché une heure plus tôt que je n'espérais. Il m'a rendu service de si bon cœur. Je voudrais lui faire aussi plaisir en quelque chose. » Elle sortit en courant pour voir si Alphonse avait déjà attelé. Comme elle passait devant son jardinet, où les œillets, les pieds d'alouette, les belles de jour aux larges cloches bleues, les grandes camomilles jaunes et blanches rivalisaient d'éclat, elle s'arrêta un instant. Une idée lui était venue. Les préparatifs achevés en grande hâte, le panier qui contenait le beurre placé au fond du char et soigneusement entouré de paille pour atténuer l'effet des cahots, Thérèse courut mettre son chapeau. Elle revint bientôt, tenant à la main une paire de ciseaux et un petit vase de terre brune. Elle fourragea dans son jardin, fauchant à droite et à gauche les plus belles fleurs et les jetant dans son tablier en une gerbe assez échevelée. « Je ferai mon bouquet en route, » pensa-t-elle. « Coco est si sage que je n'ai pas même à lui tenir la bride. » Elle cueillit encore la seule branche fleurie de son beau géranium rose et blanc, puis monta lestement en voiture et secoua les rênes pour faire comprendre à Coco qu'il était temps de se mettre en route. Des alisiers, on pouvait descendre tout droit au village par le sentier que nous connaissons. Mais le chemin carrossable faisait un grand détour pour rejoindre la route postale. J'aurai le temps d'arranger mes fleurs avant d'arriver aux premières maisons, se dit Thérèse, comme l'équipage traversait au petit trot le pré bien ensoleillé, où deux femmes enroulaient en un énorme peloton les cordes qui avaient servi à étendre le linge. Bon voyage, mademoiselle Thérèse, cria l'une d'elles. « Votre voiture a l'air d'un reposoir de la fête Dieu avec toutes ses fleurs, » remarqua l'autre. C'était une question sous cette forme discrète, mais Thérèse ne jugea pas nécessaire d'y répondre. Elle lâcha bientôt les rênes au vieux cheval gris qui connaissait par cœur les ornières du chemin, car il les avait faites. Puis elle arrangea en un gracieux bouquet la botte fleurie qui reposait sur ses genoux. Quand elle eut fini, la voiture arrivait à l'entrée du village. Thérèse mit lestement pied à terre, tenant son bouquet à la main. À la première fontaine, elle remplit d'eau le petit vase brun dont elle s'était munie, puis gravit les marches qui conduisaient à la grille du cimetière. Quelques paysannes lui suivirent des yeux, comme elle allait disparaître, derrière les sureaux et les lilas du paisible enclos. « Quelle bonne fille que cette Thérèse !» s'écrièrent-elles. « La tombe de sa mère est la mieux soignée de toutes. » Une colonne de marbre noir, brisée au sommet et portant ce nom, Antoinette Thérèse Prenelle, née Julie, se dressait non loin de l'entrée. La jeune fille passa tout près, fit un signe de croix, mais ne s'y arrêta pas. Ce qu'elle cherchait, c'était une tombe plus récente et plus humble qu'elle découvrit aussitôt. Ce pauvre tertre n'était surmonté que d'une petite croix noire en sapin. Encore était-ce la charité de monsieur le curé qu'il y avait fait placer. Thérèse s'agenouilla juste à l'endroit où Marcel, brisé par la douleur, s'était affaissé quelques jours auparavant. Elle arrangea ses fleurs de manière à ce qu'un saule voisin leur prêtât un peu d'ombre et enlaça une branche de lierre au bras de la croix. Marcel verra cela demain en venant à la messe, pensa-t-elle. Puis elle retourna en hâte à la voiture et fouetta le vieux cheval qui, tout surpris, partit au grand trot en dressant les oreilles. Le lendemain matin, en effet, Marcel, traversant le cimetière pour atteindre le porche de la petite église, vit cette fraîche parure qui ornait la tombe de sa mère, et il n'eut pas de peine à deviner quelle main l'avait placée là. Il s'inclina pieusement devant le petit tertre, sans s'inquiéter des regards que lui jetaient les gens endimanchés, qui, comme lui, allaient à la messe. Il murmura une prière pour le repos de la pauvre âme, puis, se penchant vers la petite croix noire, il détacha une des feuilles de lierre qui l'entourait de ses festons et la mit dans son paroissien. Alors, il entra dans l'église. Thérèse était déjà à sa place, guettant l'arrivée du jeune homme et certaine de deviner à sa figure s'il avait remarqué les fleurs. « Il ne fait pas de longs discours, ce pauvre garçon, » pensait-elle, « mais ses yeux disent bien des choses. » Quand il entra, leurs regards se rencontrèrent, un instant seulement, puis Marcel passa et alla s'asseoir dans son banc, à l'autre bout de l'étroite nef. Mais Thérèse avait compris. « Je lui ai fait plaisir, je suis bien contente, » se dit-elle en feuilletant son livre de prières d'une main distraite. Malheureusement, il y avait là d'autres yeux ouverts que les siens. La curiosité naturelle à la femme et, assure-t-on, au sexe fort lui-même, rencontre au village peu d'aliments. Aussi, en affamée qu'elle est, tombe-t-elle pour ceux qui se rencontrent. Tout est de bonne prise pour sa dent. Les voisines, qui, le jour précédent, avaient remarqué la courte halte de Thérèse au cimetière, ne manquèrent pas, en allant à la messe le lendemain, de chercher des yeux le bouquet et le petit vase brun. Elles furent très étonnées de découvrir l'un et l'autre, non pas au pied de la colonne de marbre noir, mais sur la tombe d'Anastasie. Il faisait beau, on ne se hâtait pas d'entrer à l'église. Près du porche, les hommes causaient bétail et culture, les paysannes commentaient la gazette de la semaine, gazette qui n'est jamais imprimée et que chacun sait par cœur cependant. Au bout de 2 minutes, toute la congrégation féminine fut instruite de ce fait singulier qu'on pouvait vérifier de ses yeux sans aller bien loin. « C'est drôle tout de même. Qu'en pensez-vous? Il faut être bonne pour ses domestiques, je ne dis pas le contraire. Mais des fleurs et des fines encore, du géranium rose, des œillets, elle n'en corde pas autant à sa propre mère. » Cet innocent bouquet fut ainsi épluché par tout ce que le village possédait d'honnêtes commères. Quand l'office commença, il fallut bien se taire, mais des yeux ardents de curiosité étaient fixés sur Thérèse. Le regard un peu prolongé que la jeune fille et le jeune homme échangèrent fut, non pas surpris, mais happé, bu au vol. Et que de remarques à voix basse on se communiqua furtivement derrière les livres de prières. Monsieur le curé aurait eu bien sujet de se plaindre de son auditoire ce dimanche-là. Cependant, comme on avait eu jusqu'alors un certain respect mêlé de crainte pour la froideur invulnérable de Thérèse, on n'osa pas aller trop loin dans le champ des hypothèses charitables. Ces deux-là manigancent quelque chose, ça se voit comme en plein jour. Mais vous savez pourtant qu'elle regarde du haut en bas tous les garçons. Il faudra voir ce que la suite donnera. Et l'on en resta à ces points de suspension.